Hello, chers cavaliers, chères cavalières, ici Angélique. Bienvenue sur le podcast de J'entraîne mon cheval. C'est le premier épisode de l'année 2020, alors permettez-moi de vous souhaiter de très belles choses pour l'année à venir, dans votre vie, et puis surtout avec vos chevaux. Abonnez-vous, suivez le blog sur les réseaux sociaux, je vous ai préparé un super programme. Je vous souhaite donc de développer le lien avec votre cheval, et j'espère que quant à des mois, on va pouvoir vous aider. Pour ce premier épisode de l'année 2020, j'avais envie de commencer très symboliquement par cette interview précisément. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle « Sauter les yeux fermés ». Mon invité du jour est Salim Ejnaini. Salim, si vous ne le connaissez pas, est un cavalier de CSO extraordinaire, au sens premier du terme, puisqu'il est non-voyant. Il est né avec un très gros problème de vue et il a dû se battre dès le berceau contre une terrible maladie. Il a pu voir, bien sûr, pendant quelques temps, même si c'était de manière très imparfaite. Mais un jour, la maladie a pris le dessus et il a perdu la vue. Mais pour autant, Salim a appris l'équitation et il enchaîne aujourd'hui des parcours de CSO à 1m, 1m10. Waouh, ça fait réfléchir. Ça met une petite claque. Salim, vous allez l'entendre, est quelqu'un de très posé. Il a une voix très douce, mais il dégage une sacrée force et une sacrée volonté. Je peux vous dire que je suis repartie de l'interview avec des étoiles dans les yeux et une énergie de dingue. Salim a écrit un livre qui s'appelle « L'impossible est un bon début » aux éditions Fayard. Je vous le recommande vivement. C'est vraiment une belle personne, très inspirante, et son histoire nous prouve à tous que nous devons croire en nos rêves, que nous devons croire en nous. Comment a-t-il appris l'équitation? Quel lien a-t-il avec les chevaux de sa vie? Comment ça se passe le saut d'obstacle pour un cavalier non-voyant? Comment il fait pour enchaîner des parcours à 1m10 sans rien y voir? Est-il vrai qu'il a déjà sauté 1m40 avec un cheval qu'il a rencontré seulement quelques semaines plus tôt? Et puis, dans des sujets plus globaux, quel est son ressenti sur la perception du para-CSO et du handisport en règle générale? Si vous pensiez que c'était impossible pour un cavalier aveugle d'enchaîner 1m10, eh bien c'est par ici que ça se passe. L'impossible est un bon début, et ça peut commencer par ce nouvel épisode du podcast. Bonjour Salim.
Bonjour.
Merci de m'accueillir sur le Salon du Cheval de Paris. Je sais que ça a été très compliqué pour nous deux de se trouver parce que tu as un emploi du temps vraiment chargé, alors j'en profite pour vraiment te remercier.
Avec plaisir.
Salim, j'aimerais qu'on parle de ta carrière de cavalier qui est assez atypique, puisque tu n'es pas tout à fait doté des mêmes caractéristiques physiques que nous. Alors, j'aimerais que tu nous parles de ta façon de voir les chevaux. Enfin, de voir, entre guillemets.
Ouais, très bien.
D'appréhender très bien, les chevaux.
J'approuve.
Comment s'est passée tes premières rencontres avec les chevaux?
Alors, j'ai rencontré, moi, le milieu équestre, un peu de la façon dont beaucoup de gens connaissent les chevaux. On a tous un rapport avec le cheval. C'est vrai que tout le monde, même les non-cavaliers, on va dire, réguliers, sont capables de te dire « j'ai déjà monté » ou « j'ai déjà fait une balade et ça m'a pas plu », machin, tout ça. Et moi, j'ai découvert justement les chevaux sur une balade à poney à la base. J'étais tout petit, c'était à Disney, je crois. J'avais 6 ans à peu près. Et c'était pendant un week-end prolongé qu'on se faisait avec ma mère à Disney. Et j'ai eu cette occasion-là de faire une balade en main. Alors, c'était le truc complètement bateau. Mais c'était vraiment un moment qui m'a marqué pendant longtemps parce que c'était un vrai beau moment. Un vrai, je sais pas, une vraie sensation de bien-être, de force et de tranquillité en même temps. Et ça m'a énormément plu. Alors, il y a eu une autre période, un autre moment un peu décisif. Ça a été en centre de loisirs, quand j'avais à peu près 10-11 ans, où j'ai eu l'opportunité de faire une journée d'initiation, donc un centre équestre, avec un vrai cours. C'était une journée de stage, hein, quasiment. Donc, toutes les matinées, on était à poney. Ça a commencé par des apprentissages, on va dire, vraiment de base. Et puis, on a fini par des jeux à la fin. C'était un truc absolument génial, quoi. J'étais pleinement aux commandes de ce qui se passait. Personne ne me tenait en main. Enfin, on m'avait prouvé que c'était possible de me faire confiance et que je gère complètement ce qui se passait. Donc,
ouais, super.
C'est pour moi,
coup,
ça a été très, très fort.
Comment tu as fait leur connaissance ? C'était avec tes mains plutôt ? Ou tu les as plus touchés, j'imagine ?
Alors, forcément. Alors, j'y voyais encore un petit peu à l'époque, mais pas suffisamment, déjà pas assez pour lire. Et puis, pas suffisamment pour que ça me serve au quotidien pour me déplacer véritablement. Donc beaucoup de mon monde passait par l'ouïe d'une part et le toucher d'autre part. Donc forcément les chevaux, j'ai cette façon très tactile encore aujourd'hui de les appréhender et puis de les découvrir. Là c'était en plus très très fort parce que je n'avais pas de repère véritable sur les canons, on va dire, de ce qu'est un cheval en termes de taille, de proportion, de dimension, de qu'est-ce qu'est un grand cheval, un petit cheval. Donc c'était vraiment de la découverte à fond et c'était très très fort comme moment, quoi, de vraiment découvrir pleinement encore une fois cette sensation de force tranquille et puis d'échange. C'était vraiment top.
Même chose après avec tes autres chevaux de ta vie, Ivoire, Rhapsody, Calypso, tu les appréhendes aussi de cette manière-là?
Oui,
tu les
bien
touches
sûr.
Beaucoup.
Alors avant Ivoire, il y a eu Dojani qui a été un des premiers chevaux que j'ai monté. Ça a été un champion de France en handisport. Il a remporté avec Laetitia Bernat les championnats de France en handisport et ça a été le premier cheval avec lequel je me suis préparé vraiment à faire du saut d'obstacle en handisport. Ça a été au top du top, véritablement. Et pareil, c'est des échanges avec ces chevaux qui ont été forcément très très forts. Alors de tous les chevaux que tu as cités, il n'y a que Rhapsody avec qui je travaille encore aujourd'hui, parce que Ivoire malheureusement nous a quittés en 2015. Et Calypso, ça a été un cheval qui m'a été confié pendant à peu près un mois. Je crois qu'on en reparle un petit peu plus tard. Et Rhapsody, c'est mon cheval donc, avec lequel je travaille encore aujourd'hui, malgré les 19 ans qu'il prend en 2020. Là. Mais voilà, c'est un relationnel qui se fait forcément avec les chevaux, de façon très muette. Donc pour moi, vu que le regard ne peut pas rentrer en ligne de compte, en tout cas, moi je ne peux pas me baser sur ce que je vois pour jauger de ce que veut me dire mon cheval, je suis forcément obligé de passer par le reste et le toucher a une place forcément prédominante là-dedans. Ouais.
Est-ce que tu as la sensation que les chevaux comprennent, tu n'as pas les mêmes capacités que les autres et ils s'adaptent à toi?
Oui, je pense que, en tout cas, le mien me l'a prouvé. Et les chevaux de ma vie, entre guillemets, les chevaux que je croise, que je découvre, me font la preuve aussi, soit qu'ils finissent très vite par comprendre, soit qu'ils ne font pas grand cas en fait, de la différence. Voilà, ça a l'air acquis, y a un échange de confiance qui se fait. Et puis... une fois que les bases sont posées, on peut se focaliser vers l'essentiel, vers ce qu'on a vraiment à faire. Et c'est ça qui est très plaisant dans ma relation avec les chevaux.
Est-ce qu'ils ont été éduqués spécialement ?
Et pas du tout. La seule éducation des chevaux dont on pourrait parler, c'est l'habitude, hein, tout simplement.
Ouais, okay.
Mon cheval est juste un amour de cheval qui est très très bien luné la plupart du temps, qui est très sympa, très bienveillant dans le fond, vraiment. D'aucuns diraient bien dans sa tête, mais dans l'idée c'est un peu ça. Donc voilà, je crois que c'est sa qualité principale et c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à bosser avec lui. Même les jours où il me fait comprendre qu'il n'a pas forcément très envie, ça ne va jamais être méchant. Donc non, il n'est pas spécialement éduqué et je ne vois pas comment on pourrait éduquer spécialement un cheval pour ces trucs-là, parce qu'on est dans ce que je recherche, dans le saut d'obstacle, véritablement, même en compétition valide, puisque c'est ce que je fais aujourd'hui. On est à la recherche d'une vraie performance et il y a très peu de façons de faire des concessions avec la performance. Donc ça serait difficile d'éduquer spécialement un cheval à ma différence, sachant qu'on va chercher à galoper, à tourner vite.
Je comprends. Ça marche. Et bien du coup, tu te décides à faire des épreuves en mode défi, avec le jumping de Bordeaux par exemple, en 2008. Comment tu t'y es mis ? Comment tu t'es dit je vais faire cette épreuve ? Et comment tu t'y es préparé ?
Le jumping de Bordeaux en 2008, on avait la chance de pouvoir y concourir sur des épreuves handisport, puisque le jumping de Bordeaux était le championnat de France en fait handisport. Donc il y avait des épreuves designées entre guillemets spécialement pour des cavaliers en situation de handicap. Maintenant, alors malheureusement le label championnat de France a disparu en 2009, donc ça a été la dernière année où on a pu courir sur le jumping de Bordeaux véritablement donc en handisport, et par la suite sur le circuit entier handisport qui a disparu en 2015. Donc en fait la première chose pour moi ça a été de faire la démarche d'entrer dans une logique de compétition, puisque avant j'étais forcément cavalier de loisirs, hein, simplement. Ça s'est fait un peu par les exemples que j'avais autour de moi. Moi, je me souviens de quand j'ai commencé, je passais mon temps à admirer des vidéos de Philippe Rosier. J'ai une vidéo d'un barrage à Nantes qui remportait magistralement avec Héritière d'Adrier, pour ceux à qui ça parlera, en 2005. C'est une vidéo que je me foutais mais en boucle, quoi, véritablement. Et chaque foulée, je crois que je connais encore par cœur le tracé. Et je bavais devant ce genre de performance. Je me disais que c'était absolument génial. Et à force de me dire que c'était génial, j'ai fini par me demander, mais pourquoi pas moi, en fait, un jour. Et bon, en faisant la connaissance de Laetitia Bernard, qui est cavalière non-voyante aussi, qui a enchaîné des parcours bien avant que moi je n'arrive sur le circuit, qui est elle aujourd'hui journaliste à Radio France, à la direction des sports à Radio France. Voilà, ça a été une idole avant de devenir une amie aujourd'hui. Donc, par l'exemplarité, par le fait d'admirer des champions, de me faire un peu des idoles, et puis à force, me voir un peu dans ces trucs-là. Donc, j'ai eu la chance aussi de faire des belles rencontres. Tiffany, qui m'a formé au début, puis coaché, guidé pendant plus de 10 ans. On a travaillé pendant un bon moment pour arriver à un niveau de performance acceptable. Et c'est avec elle que j'ai fait mes armes pendant plusieurs années sur les circuits handisport. Donc, le goût de la compétition, je dirais, il est venu comme si c'était une étape normale de mon évolution à cheval.
Et à ce moment-là, tu es encore dans le côté un cheval et un cavalier me guident, c'est ça, tu les suis?
Oui, tout à fait. En fait, à ce moment-là, on est deux sur la piste. Voilà, elle est à cheval, elle devant moi, elle me donne des infos de direction et comment dire, elle me sert de balise un peu mouvante en fait, hein, puisque moi mon but c'est de repérer où elle est et puis de me caler sur sa trajectoire dans son sillage. Il y a une instruction qui est devenue un peu le gimmick de notre épreuve, c'est 1, 2, 3, je saute, parce qu'à chaque fois que le guide était en face, il nous disait 1, 2, 3 à chaque foulée et puis je saute pour qu'on sache situer l'obstacle.
Okay.
Voilà, et prendre à peu près la bonne foulée. Il y avait beaucoup d'avantages à monter comme ça et quelques inconvénients aussi. Ça avait comme intérêt de pouvoir nous faire tourner court, galoper un peu plus vite peut-être. Et puis c'était relativement facile à apprendre comme façon de faire. On pouvait être performant assez vite. L'inconvénient, c'est que sur une combinaison, ça devenait vite dangereux. Voilà, deux chevaux, enfin un double ou un triple n'est pas fait pour accueillir deux chevaux en même temps. Et puis on était potentiellement limité sur la hauteur, puisque si le cheval guide fait barre, bah le cheval guidé peut réceptionner sur la barre projetée. Donc c'est des choses qu'on faisait jusqu'à un certain niveau de hauteur, 90 cm grand max, mais
c'était frustrant.
Pour nous, à l'époque, il n'y avait que cette façon de faire et on ne remettait pas ça en cause, mais effectivement, il y avait un blocage un petit peu frustrant dans le niveau qui fait qu'on a dû stagner à certains niveaux pendant des années et des années. Et il manquait peut-être une petite notion de performance dans tout ça. Ouais.
Qu'est-ce qui t'a fait te dire que tu allais faire différemment ?
Alors, il y a eu plusieurs choses qui sont passées. En 2015, malheureusement, le circuit handisport s'est interrompu pour plusieurs raisons politiques sur lesquelles on n'a pas forcément besoin de revenir. Mais voilà, malheureusement, le sport a pâti de beaucoup de décisions annexes, on va dire. Et en plein milieu du circuit, alors qu'on avait déjà couru les premières étapes, on a appris qu'on serait privé des deux dernières étapes ainsi que de la finale. Donc, les points qu'on avait accumulés jusque-là ne servaient à rien. Voilà, c'est génial. Un jour, tu te réveilles et tu apprends que ton sport n'existe plus.
Donc, sympa.
Ouais, c'est ça. Comme je dis à chaque fois, tu as deux solutions. Soit tu te roules en boule dans ton canapé et tu pleures, ce qu'on fait tous pendant un petit moment, hein, clairement. Soit tu te relèves à un moment donné et tu regardes ce que tu as autour. Moi, j'ai réalisé que j'avais un cheval, que j'avais une équipe, que j'avais du matériel et un savoir-faire de cavalier malgré tout. Donc on a arrêté de s'entraîner avec Tiffany en étant deux. Donc on a arrêté de s'entraîner l'un derrière l'autre. Et j'ai profité de cette période pour mettre en place quelque chose dont je rêvais depuis un petit moment, depuis 2012-2013, à savoir le fait de monter en étant guidé à la voie, donc d'être tout seul sur mon parcours. Je disais tout à l'heure que monter derrière un guide, c'est relativement simple, parce que j'ai réalisé à quel point c'était compliqué d'apprendre totalement à être guidé à la voie en n'y voyant pas du tout. Ça nous a mis plusieurs mois, à peu près un an en tout cas, pour être d'une performance toute relative, pour faire quelque chose qui ressemblait à peu près à du CSO en n'étant pas éliminé à cause des refus ou des erreurs de trajectoire. Enfin voilà.
Oui, parce que quand tu as réappris, tu t'es d'abord mis des barres au sol, j'imagine. Après, tu as essayé de faire des obstacles.
Même pas forcément.
Tu es direct allé sur 90.
Ouais, c'était pas la hauteur qui a vraiment été compliquée là-dedans. Au contraire, je vais même te dire, je suis parfois un peu déstabilisé quand la barre est trop petite.
D'accord.
Parce que je sais pas accompagner le saut. La gestion de la distance est complètement différente. Et vu que je suis un petit peu focus sur les repères que j'ai autour d'un mètre, un mètre 5, un mètre 10, bon, ça change encore tout si tu me remets des barres à 30 cm.
Ouais, okay.
Donc, mais oui, forcément, tu repasses par une période où tu abaisses le niveau de difficulté. On met quelques lignes, où on met des enchaînements simples, où tu mets quelques obstacles le long de la barrière. Mais le but, là, c'était vraiment d'être prêt sur des vrais parcours. Pas sur des parcours adaptés, sans combinaison ou quoi. On était vraiment sur, d'abord, de la Club 2, enfin, Club 3, Club 2, Club 1. Et puis, là, maintenant, je suis en amateur, carrément. Voilà, donc on a mélangé plusieurs choses qu'on a tiré de plusieurs disciplines sportives, notamment le CSO, le para-CSO pour les cavaliers malvoyants, non pas non-voyants mais malvoyants, qui mettent ce qu'on appelle des crieurs à côté de chaque obstacle, donc des personnes qui appellent en fait le cavalier. Ça se voit très souvent pour les malvoyants, ils crient carrément le numéro de l'obstacle en fait.
D'accord.
Donc chaque personne, le cavalier avant qu'il arrive sur le 1, tu entends le crieur qui dit 1, 1, 1, 1, une fois qu'il l'a passé, l'autre prend le relais en disant 2, 2, 2. On s'est un petit peu inspiré de ça, moi je leur ai juste demandé de dire là, voilà, parce que j'ai pas forcément besoin du chiffre, peu importe. Et c'est ça qui me donne en gros le repère fixe. C'est plus une balise mouvante comme le guide que je devais suivre, c'est une balise fixe cette fois. De la même manière que le cavalier lambda va regarder son obstacle, moi j'écoute mon obstacle, j'appréhende à l'oreille. Sauf que c'est pas tout à fait suffisant pour faire des jolies courbes bien dessinées. Il peut m'arriver de couper un peu trop court ou au contraire de prendre trop large ou de ne pas éviter un obstacle qui serait sur le chemin. Il y a des fois une option courte, une option longue sur un tournant.
Bah oui.
Bon, il faut savoir la prendre un peu précisément. Des fois, il faut passer entre deux obstacles dans des trous de souris. Donc pour ça, j'ai décidé qu'il y aurait une personne qui, en l'occurrence, a été ma coach à chaque fois. D'abord, c'était Tiffany. Aujourd'hui, c'est Fanny Poletto avec qui je travaille, qui se déplace sur le terrain et qui me donne des infos de direction, mais seulement de direction. C'est surtout pas du coaching. C'est juste droite, gauche, ligne pour aller tout droit et vase pour élargir une courbe. Voilà, c'est des choses relativement simples, mais qui demandent un vrai temps de réaction calculé. Elles ont, Tiffany à l'époque et encore Fanny aujourd'hui, le compas dans l'œil, mais un truc de fou. Elles arrivent à faire ça d'une précision vraiment de dingue. Et si bien que je sais que je ne rêve pas quand je dis que j'ai des vrais objectifs de performance et de classement. Voilà, on sait, j'espérais que ce soit possible à l'époque, je sais que ça l'est aujourd'hui, vraiment.
Cool. Non mais c'est super, enfin je trouve ça super d'avoir mis tout ce système en place et d'y avoir réfléchi, de l'avoir testé, approuvé, modifié.
Il y a eu des plantades, hein.
Mais c'est comme ça qu'on s'améliore.
Ouais, le petit exemple, c'est au lieu de dire tout droit, on dit ligne, mais on a essayé au début en disant tout droit, sauf que de loin, quand tu galopes avec le vent et tout ça, entre droit et droite, ça se ressemble.
Ah.
Donc on a eu quelques petits échecs. Voilà.
Effectivement.
Eh ouais.
Est-ce que tu fais une reconnaissance du parcours à pied ?
Oui, et c'est primordial, cette partie-là, parce que c'est ce qui va me donner, en gros, ma trame, ma carte GPS, en fait. C'est vraiment le fond du dessin de la carte GPS. Moi, j'aime bien cette image-là, parce que je vais m'imaginer un chemin. Alors première chose, je m'imagine la carrière, les points de repère qu'il y a autour, où est située la cabine du jury, où est l'entrée, s'il y a des points d'intérêt à côté, genre la buvette, les tentes avec les stands, les exposants, les machins, je sais pas si on est en extérieur, s'il y a de la forêt, s'il y a une route qui borde la carrière, s'il y a...
Tu te fais ta carte mentale, vraiment.
Je me fais vraiment, ouais, avec les points cardinaux sonores, entre guillemets, avec les différents points qui peut y avoir autour. Une fois que j'ai ça, que j'ai bien la forme de ma carrière, parce qu'elle n'est pas toujours bien rectangulaire, des fois il y a des petits arrondis, des petits... voilà, le plus gros exemple, c'est la carrière du jumping de Blake, qui a un bel arrondi à un moment donné. Enfin, voilà, il faut bien savoir où sont les formes un peu particulières du terrain. Une fois que j'ai ça, on va marcher le parcours. Je vais repérer où sont les différents numéros. quelles sont les courbes où il faut que je pense bien à soit élargir, soit resserrer bien comme il faut pour pas me retrouver face à un obstacle à ne pas sauter, parce que c'est des choses qui sont arrivées aussi. Quand ça se présente bien, mon cheval étant motivé, bah, il va en
venir dessus. Il est content.
Exactement. Et puis, bah, en plus de ça, évidemment, il y a les foulées, les contrats de foulées à compter. Il y a les points de difficulté particuliers, savoir si on est sur une ligne auxerre verticale, si au contraire, il faut bien rentrer en avant et redresser avant de sortir. Aussi, voilà. Il y a des petites choses que tout cavalier va travailler. Mais voilà, la reconnaissance pour moi, effectivement, est primordiale dans tout ça parce que ça va être le socle de tous les points d'intérêt qui vont venir par la suite. Tous les crieurs et tout ça, ça va venir un peu en calque de toute la toile de fond que j'aurais repérée sur la reconnaissance. Donc il peut m'arriver de la faire même deux fois si on a le temps, de marcher deux fois le tracé. Une fois qu'on a terminé la reco, ce qu'on fait, c'est pour se modéliser vraiment ce côté carte GPS, Fanny va me dessiner dans la main, avec le bout du doigt, le tracé grossièrement hein, du parcours. Donc histoire que vraiment qu'on soit certain que je l'ai bien en tête. Donc ça ressemble vraiment à voilà, elle prend ma main, on se dit que au niveau du bas de ma paume, c'est le petit côté où il y a le jury, tout en haut c'est le petit côté où il y a la forêt, et puis chacun des grands côtés, à droite il y a la buvette et à gauche je sais pas les exposants, et partant de là on va dessiner le tracé de bout en bout quoi.
Ça c'est pour des parcours d'obstacles classiques, tu as aussi fait des défis de puissance.
Alors, une fois, effectivement, où en 2017, sur le Longines Masters, on a décidé de relever un autre défi, puisque la première fois où j'ai enchaîné véritablement un parcours d'obstacles à la voix devant beaucoup de monde, c'était au Longines Masters 2016. Une fois qu'on avait réussi ça, on s'est dit, allez, on va tenter autre chose. On va s'attaquer à un autre cliché qui est celui de dire un aveugle ne peut pas sauter haut. Parce que ça aussi, je l'ai entendu, c'est trop dangereux, c'est trop compliqué, tu vas pas y arriver, si tu vois pas ta foulée, c'est impossible, etc. Eh ben, ça s'avérait complètement faux, je le savais, mais le tout était de le prouver et de réussir à le faire en toute sécurité et dans la performance malgré tout. Donc on s'est préparé, alors j'ai pas été concurrent véritablement de l'épreuve des Cibars en 2017, mais on a ouvert cette épreuve et je voulais, moi l'idée, c'était un peu de faire le lien entre le niveau zéro, donc le sol, et les hauteurs à laquelle on allait commencer cette épreuve des Cibars. Donc je voulais être aux alentours d'1m40, 1m45 sur la fin de mes passages. Et c'est ce qu'on a réussi. Donc on a fini sur un beau vertical à 1m40 avec justement, tu parlais de Calypso tout à l'heure, donc Calypso by Cartoflex, qui est un cheval que j'ai découvert un mois avant l'échéance. Puisque avec Christophe, on a une petite tradition, c'est qu'on se donne des défis, mais souvent au dernier moment. Voilà, on aime bien faire ça un peu des fois. Voilà. Donc on a parlé de ça deux mois avant l'événement. J'ai trouvé le cheval qui est arrivé un mois avant dans mes écuries. Donc on a eu en tout 4 semaines pour se préparer à ça, pour se découvrir et se préparer à enchaîner une ligne qui finissait sur 1m40.
Donc, comment ça s'est passé en termes de sensations ?
Oh, c'est absolument génial, c'est grisant. Alors en plus, c'est un cheval assez grand, assez étendu, donc plus grand que le mien, que Rhapsody, donc c'est des foulées complètement différentes. C'est une mécanique vraiment que j'ai dû appréhender de façon totalement, totalement nouvelle. Et ce qui est génial, c'est qu'il était... c'est drôle de dire ça comme ça, mais c'est qu'il était un peu craint en plus, un peu regardant. Donc on n'était pas sur quelque chose qui allait rouler de soi. Il y a eu des petits moments de doute, donc c'est bien, c'était une route un peu tumultueuse. On a fait un paddock absolument horrible, ça a été très très compliqué parce qu'il était vraiment captivé par tout ce que tu veux, sauf par ce qu'on lui demandait. Il m'a sorti de la ligne d'entraînement je ne sais pas combien de fois, donc je me suis demandé ce que ça allait donner en piste. Et une fois arrivé en piste, écoute, il s'est pris au jeu, mais magistralement. C'était vraiment très sympa et je suis vraiment je garde ça comme un très très bon souvenir. Je regrette vraiment de ne pas avoir pu travailler avec lui plus longtemps parce que on commençait à nouer quelque chose tous les deux, donc voilà, ça m'aurait beaucoup plu de faire un bout de chemin un peu plus long avec lui, mais le fait de sauter gros, justement, ça m'a aussi bougé un peu dans mon équitation. Il y a une très belle photo sur le dernier passage qu'on fait où tu me vois sur l'obstacle avec une position où on m'a dit plus tard mais qu'elle était irréprochable, enfin là, donc j'ai eu beaucoup de compliments là-dessus, et où tu vois Guillaume canet qui me servait de crieur sur ce dernier obstacle, où tu le vois avec une position magnifique, où il est lui aussi en train de lever le pied, le genou plié à fond, comme si c'était lui qui sautait. Voilà, j'aime beaucoup cette photo où on est vraiment, il y a cette belle image d'une équipe vraiment autour de ça. Et c'est ça qui me plaît dans ce qu'on fait aussi, c'est qu'on est toute une équipe autour de cette performance.
Est-ce que tu te fais coacher mentalement ?
Alors, pas régulièrement. J'ai changé d'écurie il y a de ça un peu plus d'un an, c'était en 2018, donc ouais, ça va bientôt faire 2 ans en fait. Et ça a été une période vraiment charnière pour moi, vraiment compliquée pour beaucoup de raisons un peu personnelles, mais j'ai effectivement eu un peu de mal à gérer... ma place dans tout ça, dans mon équipe, dans ma performance. Je savais plus trop où j'en étais, alors qu'en fait on pourrait se dire que je suis au centre, hein, un petit peu, mais j'ai du mal, moi, à me voir comme étant le centre des choses, y compris dans ma propre vie. Donc ça a été ouais, bah, on pourrait ne pas le croire,
ouais, c'est
mais
étrange, voilà, je comprends,
voilà, voilà. Donc je me suis un petit peu fait aider en plus par quelqu'un qui m'a approché, qui sortait de ses études, qui s'appelle Aurélie Rohrbacher, qui a aujourd'hui une entreprise de coach mental, qui était diplômée depuis et qui n'était pas encore diplômée à ce moment-là. Et on a fait un petit bout de chemin. Elle m'a beaucoup éclairé vraiment sur moi-même. Ça a été topissime. Et quand elle l'a vu vraiment ce que ça donnait, parce qu'elle m'a accompagné vraiment sur toute la transition, on s'est rencontrés un peu par hasard avant même que je ne prenne la décision de partir de là où j'étais. Et on s'est retourné sur le chemin fait, on s'est retourné sur la performance qu'on venait d'arriver à accomplir, puisque on a arrêté de travailler ensemble au moment des premières compétitions que je faisais avec Fanny Poletto. Et puis on s'est rendu compte que qu'il y avait là eu un vrai chemin de fait, et on était absolument ravis. Donc on est toujours en contact, mais je suis plus accompagné vraiment régulièrement sur du coaching mental. Peut-être que je devrais, je le recommande à beaucoup de gens, parce que c'est très peu connu et trop peu connu. C'est une vraie part de la performance, c'est une véritable une vraie clé vers l'accompagnement, vers, je pense, l'excellence. Et ça peut faire peur à beaucoup de gens de chercher à se connaître à ce point-là, mais pour moi c'est un chemin qui est nécessaire, donc je le recommande 1000 fois.
Est-ce que tu as un autre écosystème d'athlètes, des médecins qui te suivent, des ostéos, des... je sais pas, des masseurs
Je pense que les cavaliers sont connus pour être de très mauvais patients, et je vais pas faire exception à ça.
Ton cheval a tout, j'imagine, lui.
Mon cheval, dès qu'il y a l'occasion, que ça soit ostéo, dentiste ou communication animale, j'ai tendance à ne pas voir à la dépense, mais il m'arrive, quand vraiment je me retrouve bloqué sur des trucs un peu cons, oui, il m'arrive de faire appel à une ostéo, voilà, coucou Constance, hein, qui monte avec nous aux écuries et qui est un peu l'ostéo officiel de toute l'écurie Flamme. Voilà, donc oui, il nous arrive de faire appel à l'ostéo quand on en a besoin. Après, est-ce qu'il y a vraiment un suivi Non. Voilà, tant que ça tient, on a tendance à y aller et à tirer sur la corde, et un peu trop. Voilà, mais...
Problème de cavalier, effectivement.
Problème de cavalier. Alors, en plus, moi, je suis kiné de formation, donc pareil, quand Fanny est un peu bloquée ou quoi, là, en plus, c'est des choses qui lui arrivent un petit peu souvent. On l'appelle Terminator. Elle se fait tout le temps mal quelque part, mais malgré tout, elle est tout le temps à cheval. Donc, c'est un truc de fou. Voilà, je sais pas comment elle fait. Mais oui, c'est un problème de cavalier, comme tu dis, et il faudrait qu'on y pense un peu plus, mais... voilà, on prend jamais le temps, et c'est tout pour nos chevaux, et c'est comme ça que ça marche, je pense.
Oui, effectivement, ça a l'air d'être un trait caractéristique.
Ouais, un petit peu. Ouais.
Est-ce que t'as peur de tomber ? Est-ce que t'as peur du risque ?
Alors, peur de tomber et peur du risque. Je crois que le risque, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Ce serait idiot d'en avoir peur, parce qu'il est présent partout. Voilà. Dès lors que tu choisis de te lever, de mettre ta couette à tes chevilles et de mettre le pied au sol, tu prends un risque. Voilà. Quand tu vas te doucher, quand tu traverses la route, ou même que tu te fais un café, je ne sais pas, il y a un risque.
On peut se brûler, c'est vrai.
On peut se cramer. Donc, monter à cheval, il y a un risque qui est mesuré. S'il n'y avait pas de risque, on n'aurait pas besoin de mettre de casque, ni d'airbag, ni quoi que ce soit d'autre. On n'a pas besoin de mettre des guêtres à notre cheval ou de se protéger. Et pourtant, voilà, c'est ce qu'on fait, ça devient habituel. C'est des petites choses pour minimiser ce risque, justement. Le risque est acceptable, le danger ne l'est pas. Donc je pense qu'il faut réduire le plus possible la part de risque pour supprimer le danger. Maintenant, peur de tomber, il y a peut-être des moments où je me dis que ouais, j'ai pas envie de tomber. Maintenant, si on a peur de tomber, je dis toujours autant ne pas monter parce que les chutes, il en faut. Il n'y a pas très longtemps, je tournais pour une chaîne télé avec un cheval que je ne connaissais pas dans une écurie où j'avais pas forcément l'habitude de monter. On fait un vertical à 1m5 qui se passe très très bien. Juste après, je vais sur un double à 40 cm. Le cheval un peu content, réception, il baisse la tête et il met un ou deux coups de dos. Je l'ai senti venir, mais à des kilomètres. Et j'ai quand même fait un magnifique roulé-boulé au ralenti. Je me suis retrouvé à faire un plat d'eau avec le micro de la chaîne télé qui m'est rentré dans le dos. En plus, c'était magnifique. Voilà, je suis tombé. Bah écoute, je me suis relevé, je suis remonté. On a refait ce petit double à la con et ça s'est très bien passé. Le cheval en plus, c'était adorable. Enfin, c'était vraiment un moment
il
très sympa.
Dire, oups.
Ouais, c'est ça, ils m'ont regardé l'air de dire, mais qu'est-ce que tu fais par terre, copain? C'est vraiment. Ouais. Voilà, donc non, il n'y a absolument rien. Alors, il y a des grosses chutes, hein, malheureusement. Je pense évidemment à Thibaut Fournier, il n'y a pas très longtemps, qui s'est un petit peu fait mal. Voilà, on pense évidemment à ces risques-là, mais qui font partie du jeu. C'est le contrat qu'on signe dès qu'on met le pied à l'étrier, dès qu'on met les fesses sur la selle. C'est ce qui risque d'arriver, c'est ce qui peut arriver et c'est ce qui doit arriver pour progresser. Parce que si on n'est jamais tombé, on ne sait pas comment faire pour éviter de tomber. Donc la peur, je crois que ça doit rester une information. Il ne faut pas se laisser guider par ce sentiment de peur et de crainte et de doute. Et voilà. Autant, si on se laisse paralyser par la peur, on ne fait plus rien. C'est là que c'est pas bon et que certains prennent la décision d'arrêter.
Est-ce que tu as des sports complémentaires à l'équitation? Je sais qu'en règle générale, les cavaliers sont monosports parce qu'ils n'ont pas du temps à consacrer à autre chose. Mais est-ce que toi, tu prends ce temps?
Alors, j'ai beaucoup de passion. Je vais te parler de l'avion, évidemment. J'ai été en tout cas, parce que ça fait assez longtemps que je n'ai pas eu le temps. Voilà, on en revient à ce que tu viens de dire, de piloter. Mais j'aime beaucoup le pilotage d'avion. J'aimerais m'inscrire un peu plus régulièrement sur... un sport de combat qui s'appelle le Kala System, qui est basé sur l'autodéfense, qui me plaît énormément.
Je fais du Krav Maga.
Et ben c'est un dérivé du Krav Maga, justement. Okay. Tu
je
vois.
Passe ma ceinture jaune samedi.
Et ben voilà, je penserai à te serrer la main bien respectueusement en partant. Mais j'ai fait du judo dans l'enfance. J'aime bien essayer les choses.
Et c'est après... pareil, le handicap ne t'a pas finalement gêné plus que ça pour ces activités-là?
Non, il y a des choses qu'il faut savoir adapter maintenant. De là à dire que c'est impossible, justement à cause de la différence, c'est pas du tout mon credo. Voilà, pour moi, la différence, c'est juste une façon de se demander comment on peut faire. Voilà, quelle chose il faut adapter, qu'est-ce qu'il faut retirer ou qu'est-ce qu'il faut ajouter pour faire les choses. Là, par exemple, je reviens sur l'exemple du CSO, mais je suis en compète amateur valide, que ce soit amateur 3, amateur 2, là, je cherche un cheval pour faire un petit peu plus, parce que Rhapsody va prendre 19 ans, mais dans l'idée... Le chemin qu'on a fait, on l'a fait en se demandant comment adapter ou comment juste compenser en fait. Et si bien que le règlement général des compétitions valides permet à tout cavalier handisport de participer avec les adaptations qui sont les siennes. Donc on est vraiment sur une démarche que la fédération approuve et qui est intégrée dans le sport véritablement. On est là pour avoir des moyens de compenser la différence à la recherche de la même perf, et non pas pour... ces adaptations sont limitées si on estime que ça va me favoriser, ce qui clairement n'est pas le cas. Voilà, je ne vais pas être avantagé parce que quelqu'un me dit de tourner à droite ou à gauche. Donc j'essaye juste de transposer ça à toutes les autres disciplines ou toutes les autres choses que je vais tenter. Je peux parler aussi de l'airsoft que je pratique, c'est un petit peu comme le paintball. Voilà, des mecs en treillis qui se tirent dessus avec des billes en nylon et des répliques d'armes. Et ben voilà, derrière un des fusils certains week-ends, il y a un mec qui voit pas et qui tire à l'oreille. Et les mecs de l'association avec qui je joue sont complètement habitués à tout ça. Et au début, ils me regardaient avec des yeux ronds comme des soucoupes. Maintenant, ils m'appellent tous le radar parce que
parce
qu'ils sont habitués à ce que je leur dise non, traverse pas les fourrés là-bas parce qu'il y a deux mecs qui nous. Voilà, c'est exactement ça. Donc non, j'ai tendance à faire en me demandant comment arriver à mes objectifs. Voilà, et pas à me dire qu'ils sont impossibles à atteindre.
J'adore, c'est génial comme mentalité. Ah bah c'est vrai, écoute, je me dis que tu as eu une vie finalement peut-être plus riche et plus exaltante que le Pékin moyen. Puisque si je reprends, tu es cavalier de CSO, Tu es conférencier, tu as fait des TED Talks, tu es kiné.
Exactement, de formation, je suis kiné. Ouais. J'exerce plus aujourd'hui, on va dire que je rends service, mais j'ai exercé pendant 2 ans, kiné jusqu'en 2016. Et j'ai arrêté pour un poste de stagiaire journaliste chez Grand Prix.
Bah oui, c'est ce que j'allais dire, tu es journaliste.
Exactement, et ça aussi j'ai arrêté pour me consacrer d'une part à l'écriture de mon livre et d'autre part à mon activité de conférencier que je maintiens aujourd'hui. Et en fait, mon équilibre professionnel aujourd'hui est justement là-dedans, dans mon activité de conférencier, ce qui me permet justement de me libérer du temps pour pratiquer en tant que cavalier. Et c'est la stabilisation de cette activité. J'ai quelques contrats assez intéressants en ce moment qui arrivent de façon régulière, qui me permet d'espérer pouvoir avoir un deuxième cheval et une activité encore un peu plus intense vers, j'espère, on va croiser les doigts, du niveau encore supérieur.
Quel conseil tu pourrais nous donner pour que nos vies à nous soient plus passionnantes ?
Waouh, c'est une grosse mission là que tu me mets sur les épaules. Ouais. Écoute, je sais pas, oser y croire. Il y a une expression moi que j'aime pas du tout qui dit faut pas rêver. Moi, je veux dire l'inverse, il faut rêver. Le rêve, c'est le premier, je sais pas, c'est le premier marqueur, la première flèche qui montre vers où on a envie d'aller. Maintenant, il y a tout un boulot de tirage à la corde. Une fois qu'on a mis l'hameçon sur le rêve, il faut mouliner très très fort pour faire descendre le rêve de très très haut dans le ciel jusqu'à un peu plus sur terre. Et un rêve qu'on a réussi à faire descendre sur terre, ça devient un projet tout simplement. Et un projet,
un objectif, du coup,
Et puis un projet, ça demande du boulot et ça demande de l'implication pour devenir un succès ou un échec. Mais si on n'a pas, je sais pas, si on fait pas la démarche d'oser affronter ce risque d'échec, on perd toutes les chances de réussir. Donc c'est là une de mes phrases favorites, mais prendre le risque d'échouer, c'est se donner une chance de réussir. C'est en prenant le risque un peu de ce qui peut arriver de négatif, qu'on se donne la meilleure chance d'arriver au bout de ce qu'on espère. Donc voilà, il faut pas avoir peur d'oser s'écouter. Des fois, je pense. Et c'est ce que j'ai fait, moi, en plaquant mon CDI de kiné et mon petit appart très sympa en région bordelaise, et voilà, pour un 17 mètres carrés sur Asnières-sur-Seine, pour un stage de journaliste, franchement, pas très bien payé, pour un loyer assez cher, pour une vie très compliquée. Mais je le faisais par passion et je savais très bien pourquoi j'allais jusque-là. Et ça a été un quotidien franchement très intense, mais dont j'avais besoin à ce moment-là et qui m'a mené aujourd'hui là où j'en suis. Et je pense que si j'avais pas osé faire ce saut dans le vide, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, j'en serais peut-être pas là où j'en suis aujourd'hui, si on estime que je suis arrivé quelque part. En tout cas, moi, je sais que je suis très bien dans le quotidien que je mène et que je regrette pour rien au monde les choix que j'ai faits dans ce sens-là.
Peut-être que tu peux nous parler de ton livre. L'impossible est un bon début,
ouais.
C'est une bonne phrase.
C'est un titre qui a mis un peu de temps à arriver, mais finalement, il me convient assez parce qu'on m'a souvent opposé à beaucoup des projets dont je t'ai parlé pendant quelques minutes là, que c'était pas possible, tout simplement. C'est un peu le réflexe des gens quand ils sont face à la différence et que tu leur proposes un truc un peu fou. Ils vont te dire « Ah non, tu peux pas, c'est pas possible, je vois pas comment. » Et puis voilà, entre le « c'est pas possible » et le « je vois pas comment », il y a déjà un petit chemin.
Parce que
le « je vois pas comment », c'est une ouverture vers la réflexion et à se demander justement comment on peut réussir. Donc j'ai appris avec le temps à considérer le fameux « impossible » qu'on m'oppose en première intention, non plus comme la fin d'un rêve, mais comme le commencement d'une aventure, le commencement d'une réflexion, à se demander comment, et à réfléchir à quels sont les moyens qu'on peut mettre pour arriver à ces objectifs. Donc mon livre, il est tout simplement là pour parler à tout le monde, pas seulement à des cavaliers, pas seulement à des personnes qui ont une différence. Ce que je dis à chaque fois en étant volontairement provocateur, mais j'ai pas voulu faire ni un bouquin de poney ni un bouquin d'handicapé. Si on veut un livre de poney, on va chercher un cavalier pro et on a le manuel du parfait champion. Moi, c'est pas le cas. Si on veut un livre d'handicapé, on va chercher quelqu'un qui a vécu à 1000% dans le milieu du handicap, ce qui n'est pas mon cas non plus. J'ai voulu un peu retracer à travers l'expérience que j'ai et les choses que ça m'a apporté, eh bien les leçons que j'ai retirées de tout ça et donner un peu, je sais pas, l'espoir aux gens qui ont besoin de le trouver ou voilà, donner les quelques leçons que moi j'ai pu tirer à tout le monde, à tous ceux qui pourraient se sentir concernés. Donc je pense que mon livre peut effectivement s'adresser à tout le monde.
J'ai commencé à le lire, j'ai pas eu l'occasion de le finir. Je me le suis fait dédicacer et d'ailleurs, si les autres auditeurs veulent se le procurer, ils peuvent le trouver où ?
Ah bah j'ai, comme dit l'expression, consacrée dans toutes les bonnes librairies, c'est-à-dire que j'ai la chance d'être publié par Fayard. Donc c'est une grosse maison d'édition. Donc on est disponible un petit peu partout, que ce soit, les grosses enseignes comme la Fnac, enseignes en ligne comme Amazon ou les petites librairies de quartier. S'il n'est pas disponible en rayonnage, il sera dispo en commande en tout cas. Donc on a essayé de faire en sorte qu'il soit facile à se procurer, quoi qu'il en soit.
Ça marche.
Voilà.
Si on parle un peu plus handisport, est-ce que c'est facile d'apprendre l'équitation handisport ? C'est facile de trouver un club ? Est-ce que l'enseignement est particulièrement bien réfléchi ? Est-ce qu'il y a des infrastructures adaptées ?
Alors l'équitation, qu'elle soit handisport ou non, ça reste de l'équitation. C'est vrai pour le saut d'obstacle, c'est vrai pour le dressage. On est sur les mêmes bases, sur exactement les mêmes objectifs. Une barre qui tombe fait 4 points pour tout le monde. Il faut les mêmes aides pour un départ au galop pour tout le monde. Hein. Le cheval ne va pas faire la différence. Donc l'équitation, c'est un peu un langage universel. Après, est-ce que c'est facile d'entrer dans le milieu de l'équitation quand on a une différence comme la mienne ? Non, c'est pas facile. Parce qu'on va se heurter justement au regard de l'impossible, on va dire, des premiers intervenants à qui on va s'adresser. Bon, il m'a fallu un an pour trouver un club qui accepte de me faire monter régulièrement à cheval. Entre cette initiation dont je t'ai parlé tout à l'heure en centre de loisirs et le moment où je suis devenu véritablement un cavalier régulier, il m'a fallu une année. Donc on m'a opposé des refus comme quoi non, on n'est pas équipé ou on n'est pas formé. Tout ça pour me dire qu'ils avaient la trouille, hein, tout simplement. Voilà, donc la trouille ou pas l'envie d'essayer. Et quand on va forcer quelqu'un qui n'a pas envie à faire quelque chose, clairement, il va le faire mal. Donc c'est pas une bonne idée forcément d'insister non plus auprès de la même personne. Il vaut mieux persévérer et aller chercher ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai absolument pas commencé auprès d'une écurie qui était... soi-disant formé ou adapté ou labellisé ou quoi. Aujourd'hui il existe des labels, à l'époque il n'en existait pas tellement. J'ai juste appris avec des gens qui avaient envie d'essayer, qui avaient envie de m'apprendre et de se poser la question de comment faire. Et je crois que c'est une des plus grandes chances que j'ai eues et c'est le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un. Il existe des labels aujourd'hui, le BFEEH, Brevet Fédéral d'Enseignement et qui en dit, qui labellise une écurie pour l'accueil des personnes en situation de handicap. Après, il existe plusieurs types de labels en fonction des types de handicap auxquels on va s'adresser. Mais c'est un bon indicateur pour vous dire que de toute manière, l'écurie a envie de vous accueillir. Donc pour ça, c'est une belle avancée, je trouve. Après, c'est pas parce qu'une écurie n'est pas labellisée qu'elle ne peut pas vous accueillir. Et elle peut, au contraire, avoir justement envie de vous accueillir et de chercher avec vous les clés pour vous enseigner. Donc c'est pour moi... le meilleur de tous les indicateurs, c'est une écurie qui vous dit qu'elle a envie d'essayer. Après, le milieu du handisport est très compliqué, comme je l'ai dit un peu plus tôt, enfin en tout cas pour le saut d'obstacle, il y a eu un arrêt du circuit, la discipline est plus ou moins en stand-by depuis, c'est très compliqué de trouver des épreuves de saut d'obstacle handisport. Là, moi, j'ai la chance de concourir régulièrement en épreuves valides et d'être... pleinement une partie de l'équipe amateur de mon écurie, puisqu'on est plusieurs cavaliers réguliers à sortir dans la région de Bordeaux, je suis dans le sud-ouest, sur des épreuves amateur 3, amateur 2. On va viser un peu plus haut avec mon prochain cheval, mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Mais c'est possible parce que vraiment, les bases sont les mêmes, quoi. L'équitation est la même, qu'on soit en handisport ou en valide. On est cavalier avant tout.
Est-ce que d'autres cavaliers t'ont contacté pour suivre un peu la voie que tu as tracée, pour concourir avec les valides, surtout si les épreuves handisport disparaissent ?
On me demande surtout comment faire pour concourir en handisport quand on me contacte. Et c'est vrai que j'ai toujours un petit peu ce pincement au cœur de devoir dire que ça n'existe plus ou que c'est en stand-by pour l'instant. J'ai un énorme regret, face à cette décision qui malheureusement a dû être prise par la FFE en 2015. Je pense que du temps a passé depuis et qu'il serait temps de se poser les bonnes questions maintenant, de savoir relancer quelque chose. Si j'ai fait la preuve de quelque chose pendant ces années, je crois que il faut savoir se dire que maintenant, de nouvelles choses sont possibles, de nouvelles réflexions sont réalisables et envisageables vers le sens de la performance. Je crois que le discours autour de la sécurité doit être pleinement pris en compte et les aménagements que j'ai essayé de mettre en place ont toujours été dans ce sens-là, de la performance et de la sécurité. Et j'espère véritablement qu'un jour, on pourra revoir une nouvelle forme de saut d'obstacle para-équestre se mettre en place un peu plus dans la voie de ce qu'on a vu faire ces dernières années et non pas dans les difficultés qu'on a pu connaître en 2014-2015. C'est vrai qu'il y a eu des choses un peu compliquées. Voilà, il est possible de faire table rase du passé. Maintenant, on est en 2019, on approche de Paris 2024. Ça serait dommage de ne pas saisir la belle occasion que nous offre l'histoire, un petit peu. Voilà.
Est-ce que, justement, tu parles de Paris 2024, est-ce que tu sens quand même des perceptions différentes, une évolution, peut-être, sur le handisport, aussi bien au niveau du public que des médias ?
Oui et non, parce qu'on va rester un peu marginal dans le handisport en général. Ça va rester un petit peu dans l'esprit, l'imaginaire commun. D'abord, il y a les Jeux Olympiques et ensuite, il y a le truc des handicapés. Ça reste un petit peu comme ça. Malheureusement, là, très récemment, les championnats du monde d'athlétisme handisport n'ont pas été retransmis à la télé, par France Télévisions et tout ça. Donc la grande majorité des spectateurs, des téléspectateurs habituels, n'ont pas été au courant qu'il y avait les championnats du monde en e-sport et que mon ami Timothée Adolphe, notamment, a remporté l'or sur le 400 mètres et l'argent sur le 100 mètres. C'est des médailles, c'est des médailles pour la France. Et malheureusement, la France n'est pas au courant que des athlètes vont remporter des médailles. Donc je trouve ça effectivement très triste, ça reste assez fluctuant. On a parfois des grosses opérations com et diffusion et médias, et quand on voit que dans certains cas elles sont les opérations sont difficilement retransmises, on se demande s'il n'y a pas un peu d'alibi derrière tout ça, si on ne le fait pas un petit peu pour le faire. J'arrive pas tout à fait à savoir si on croit véritablement dans la performance du handisport ou si on le fait parce qu'il y a nécessité de le faire. Voilà, c'est un peu franc comme discours, mais dans l'idée, je pense qu'il faut savoir aussi se mettre pleinement dans la visée de la performance et dans l'esprit olympique et paralympique et dans l'esprit de la flamme et de la médaille, parce que c'est véritablement ce qu'on va aller chercher quand on chasse la performance. Alors que ça soit moi à mon niveau, je suis un amateur, je suis absolument pas sur les rangs d'une médaille olympique ou paralympique, mais enfin la flamme qui nous anime va être la même. Voilà, et je crois qu'il faut savoir aussi se réunir autour de cette performance. Mon idée autour de tout ça. On a un peu de chemin à faire.
La réponse est toujours complexe, hein, de toute façon, sur ce genre de sujet.
On a du chemin à faire, surtout. Voilà. Il y a des choses qui existent, c'est bien, mais ça reste très imparfait. Et il faut saisir des occasions comme Paris 2024 et d'autres. Mais là, on est sur une très, très belle opportunité pour justement faire connaître tout ce qui est un peu dans l'ombre et mettre en avant ce qui mérite de l'être.
Comme ton temps est précieux, je te propose de partir sur la dernière question.
Dis-moi tout.
Que je ne t'ai pas envoyée à l'avance, parce que celle-là, j'aime bien...
Surprends-moi, je t'écoute.
Alors, je la pose à tous mes invités. C'est pour le mot de la fin, en fait. Si je devais te dire le premier mot qui te vient lorsque je te parle du lien cavalier-cheval, quel serait-il ?
Confiance. Sans l'ombre d'un doute et sans hésitation, tu vois, il n'y a pas de montage, je t'ai répondu direct. Sans hésiter, la confiance, parce que la confiance est un mot qui va à double sens. Et souvent, par défaut, on va me dire « tu fais confiance à ton cheval ». Oui, mais il n'y a pas que ça. Mon cheval me fait confiance. On est vraiment sur un échange, sur un dialogue. Tu vois, j'en rajoute en plus derrière la confiance. Mais on est absolument à devoir communiquer pour se comprendre. Et rien ne fonctionne à cheval s'il n'y a pas un minimum de confiance. Et il y a plusieurs façons d'atteindre le haut niveau. Il y a plusieurs façons de créer une équitation et de créer une performance. Il y a des belles manières et des manières moins jolies. Moi, je sais vers quelle voie je veux m'orienter. Je sais avec qui je travaille pour ça. Et je sais très bien ce que je m'interdirais toujours de faire. Voilà, des manières un peu plus agressives ne m'intéressent pas et ne me plaisent absolument pas. Et j'ai à cœur de poursuivre dans cette voie-là et dans la voie de l'échange avec mon cheval. Et pour moi, véritablement, cette confiance mutuelle et ce lien d'échange, de confiance est à la base de tout ce qu'on va faire ensuite, que ce soit sur le terrain, que ce soit sur une balade en forêt, que ce soit même à pied le reste du temps. Moi, quand je m'occupe de mon cheval, souvent on me dit qu'il a toujours un petit œil, une petite oreille vers moi pour vérifier ce que je fais. On a l'impression que c'est lui qui me surveille plus que l'inverse. Ce lien me plaît énormément et pour moi, c'est ça qui n'a pas de prix dans la relation entre un cheval et son cavalier ou un cavalier et son cheval. Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer pour moi.
Eh ben, c'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Salim.
Merci à toi.
Et hello à nouveau. C'est la fin de notre épisode « Sauter les yeux fermés ». J'espère qu'il vous a plu et que vous avez pris un super coup de boost grâce à Salim. Allez donc lire son livre « L'impossible est un bon début ». Je crois que finalement, je ne vais pas vous souhaiter plein de belles choses, mais plutôt plein de choses impossibles pour cette année à venir. Et si vous souhaitez me poser des questions, me contacter, eh bien rendez-vous sur la page Facebook « J'entraîne mon cheval » ou sur Instagram, @j'entraîne mon cheval. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. À bientôt !